Scène numéro 2. Vous êtes donc à Lens, sur les hauteurs de Nice. Vous allez voir vos parents. Que s'est-il passé?
Eh bien, je voulais voir mes parents après la mission que j'avais accomplie dans la région. Et c'était en plus un vendredi ou un samedi. J'ai dit, je vais passer le week-end voir mes parents. Je suis donc allé à Clans. Et le lundi, quand je voulais repartir, le chauffeur du car de Clans nous a appris que les Allemands étaient arrivés à Nice, avaient remplacé les Italiens et qu'ils surveillaient, qu'ils arrêtaient toutes les voitures et qu'ils surveillaient et prenaient les identités de tous les gens et dans la vallée du Var comme sur la route nationale. Alors ma mère de suite a dit, bah, tu vas pas partir, tu vas rester, attends quelques jours. La résistance n'était pas rémunérée, j'avais pas à aller pointer au travail, j'ai dit, bon, bah, je vais rester. Et je suis resté, puis je suis resté 8 jours, et puis les événements ne faisaient que s'aggraver, parce que j'avais toujours cet ami qui était chauffeur de la ligne de car Nice-Clans, il a dit que les contrôles sont de plus en plus sévères, les Allemands arrêtent tout le monde en ville, et sur les routes, pareil, ils font déculotter les hommes, ils font des arrestations sans arrêt, sans arrêt, complètement déchaînés. Alors, sûr, je ne suis pas descendu, j'ai attendu. Mais alors, on a appris, bien sûr, par les nouvelles, par la radio, que les Allemands étaient venus à Nice et remplacer les troupes d'occupation italiennes. À ce moment-là, il a fallu qu'on prenne on a décidé de prendre des mesures de sécurité. Et comme nous étions quand même, il y avait pas mal de juifs, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, à Clans, des juifs d'Alsace, de différentes régions hors de Nice. Bon, je comprends encore les Niçois parce que on savait que Clans c'était une station climatique, que c'était joli, que c'était agréable à vivre, à y vivre. Mais il y avait beaucoup de juifs d'autres régions. Alors, on a regardé un petit peu la topographie de la région et on s'est rendu compte d'ailleurs très vite que la route après Clans ne va nulle part, ne mène nulle part, et que la route depuis la route nationale en bas dans la vallée de la Tinée serpentait à travers les collines, qu'il était facile de surveiller à la jumelle tout ce qui montait. On avait arrangé un système d'alarme organisé par le maire de Clans. Non, il n'était pas maire de Clans à l'époque, pardon. Monsieur Isoard, qui était dans la résistance, qui travaillait à l'usine d'électricité du Banqueron, Bancairon, dans la vallée de la Tinée, une petite usine électrique. Toutes les voitures qui passaient là, on les voyait. Et sa femme était postière à Clans, telle que la postière de Clans. Alors on avait, lui qui était dans la résistance, M. Isoard, on a arrangé un système d'alerte en disant que sitôt qu'il y avait des voitures étrangères ou des voitures douteuses ou des camions militaires, bien sûr, montés, de prévenir sa
De
femme.
prévenir comment? La
Ah
postière,
ben
là.
lui, il peut téléphoner d'en bas, hein, téléphoner d'en bas du Banqueron. Il téléphonait du bistrot qui était. Il n'avait même pas le téléphone à l'usine du Banqueron, mais il y avait un bistrot en face, dont je ne me souviens plus le nom. Je crois qu'il n'existe même plus. Et de là, il téléphonait à sa femme. Et il disait simplement, le lait monte. Il y a eu des alertes une fois, deux fois, trois fois, qui étaient des fausses alertes. Dans ce sens que ce n'était pas des Allemands, il est monté des gens, bon, un peu douteux, mais par mesure de précaution, Isoard prévenait quand même sa femme. Et puis un jour, bon, les SS sont arrivés dans leur voiture et dans leur camion, et il a téléphoné, mais quand il a averti, beaucoup de gens se sont dit, oh, bah, encore une alerte, encore une alerte, et il y en a tellement, c'est tout bidon, bon. Mais cette fois-là, ce n'était pas bidon du tout. Et les SS sont montés le lundi 23 octobre 1943, et ils ont arrêté Madame Isoard, Monsieur Isoard, un tas de gens dans le pays, et ils ont commencé à faire la ronde des habitations.
Pourquoi ont-ils arrêté les Isoards? Ils n'étaient pas juifs.
Ils n'étaient pas juifs, mais ils ont arrêté, ils savaient qu'il y avait des résistants. Parce qu'ils cherchaient les juifs, d'accord, mais les résistants, en même temps, c'était pas mal non plus. Hein. Je l'ai su après, parce que j'ai vu, moi, à mon interrogatoire, une lettre de dénonciation qui disait que où j'habitais, où mes parents habitaient, et ils connaissaient le mot de passe, le Lemont. On n'a jamais su comment ils l'ont su. Personne n'a pu nous préciser cette chose. J'ai su après qui m'a dénoncé, moi personnellement, mais Brunner, quand il est monté là-haut et qu'il connaissait le mot de passe qui était le Lemont, il l'a su. Par qui, par quoi, comment, je ne sais pas.
Alors,
j'ai jamais su.
Vous venez de parler de Brunner. Précisez de qui il s'agit.
Alors, Brunner, B-R-U-N-N-E-R, était un officier SS qui avait sévi déjà à l'arrestation des Juifs en Autriche et en Grèce, je crois.
En Salonique.
Pardon ?
En Salonique.
Oui, en Salonique, oui. Et était chef du camp de Drancy. Il était chef du camp de Drancy.
Aloïs Brunner.
Aloïs Brunner. Et il est venu personnellement parce que, vous avez dû le lire dans mon livre, tous les détails, les Allemands n'étaient pas contents des arrestations des Juifs sur la Côte d'Azur. Les Allemands ont su que les Juifs étaient protégés par les Italiens, que les Italiens n'avaient pas mené la même politique raciale que les Allemands. Et ils ont décidé un jour, il leur fallait vider... un grand coup, beaucoup de Juifs, et il y en avait beaucoup sur la Côte d'Azur, de toute origine, de toute provenance, et ils ont décidé de mener ces rafles sur la Côte d'Azur. Après le départ des Italiens, ils sont partis en septembre 1943. Et Brunner est arrivé, il avait des lettres de dénonciation, il a arrêté... Les Isoards, il les a finalement libérés parce qu'il n'avait rien trouvé contre eux. Et puis lui était surtout là pour arrêter la chasse aux Juifs, et plutôt que les résistants. Mais il voulait savoir, il y en avait beaucoup. Parce qu'en fait, dans la région de Clans, il y avait quand même, je crois, 72 Israélites qui étaient dans la région. Ils n'en ont arrêté que 27.
Et des résistants ?
Ah, ils n'ont pas arrêté de résistants.
Et vous étiez dénoncé en tant que juif.
Ah oui, bien sûr, oui. Oui. J'étais dénoncé, moi et ma famille. Ma famille et moi. Hein. Et... Bon, j'ai fait tout ce que j'ai pu quand j'étais arrêté pour que mes parents s'en aillent, car nous avions préparé une voie de sortie de l'autre côté de la maison. Et finalement, j'ai pu les prévenir, je suis remonté à la maison au moment où j'étais arrêté. Je les ai prévenus de partir très vite, ils sont partis, ils n'ont pas été rattrapés, et ce jour-là, les Allemands n'ont arrêté que 27 Juifs. Et je suis le seul revenu de l'arrestation, de cette arrestation.
Vous vous souvenez du nom des
non.
autres ?
Non, Dreyfus, je me souviens Dreyfus parce qu'il était professeur dans un lycée de Strasbourg. Et par recoupement, j'ai connu quelqu'un à Auschwitz, un médecin qui était un ami d'enfance à ce Dreyfus. Enfin, ce nom m'est resté, hein, pour différentes raisons. Mais sinon, non, je ne les connaissais pas, moi. Hein. Je ne vivais pas tellement à Clans, je ne connaissais pas. Hein.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Vous avez été interrogé ?
Ah ben oui, hein, d'abord, bon...
Où ça ?
D'abord, on a été interrogé à Clans même, et de là, nous sommes redescendus en fin de la journée. On est redescendu et ils ont amené tout le monde, il y avait deux camions pour nous descendre. Les deux camions se sont arrêtés à l'hôtel Excelsior, avenue Durante.
À Nice.
Et j'allais descendre du camion, il dit non, toi tu restes, on va à l'Ermitage. On est monté à l'hôtel Hermitage à Cimiez, qui était le siège de la Gestapo. Alors, c'est là que j'étais interrogé.
Et pourquoi vous aviez un traitement spécial ?
Eh bien, écoutez, je n'ai pas eu l'occasion d'en parler à Brunner, mais ça vient de lui. Les ordres étaient de lui. Il devait savoir où, dans la lettre de dénonciation, il y avait certainement, il était certainement indiqué que j'étais en plus résistant, juif et résistant. Alors, c'est pour ça qu'on m'a amené à l'Ermitage. Et à l'Ermitage, bon, j'ai été interrogé, j'ai été brûlé, vous l'avez lu dans mon livre, les cicatrices de cigares sur les jambes, sur les cuisses. On m'a interrogé, puis finalement, ayant peur de parler, j'ai dit oui, d'accord, c'est vrai, je suis juif, mais enfin, je suis juif. Mes parents sont juifs, alors bon, moi, je suis juif. Je n'ai jamais mis les pieds à la synagogue, mais je suis juif puisque mes parents sont juifs. Alors de là, de l'Ermitage, on m'a renvoyé à l'Excelsior, et le lendemain matin, nous avons été déportés à Drancy.
Vous êtes parti comment à Drancy ?
Ah là, c'était pas des trains, des wagons à bestiaux, hein, c'était le train normal. Le train normal en troisième classe, je crois qu'il y avait encore les troisièmes classes à l'époque, ça a été supprimé. Vous savez que dans les chemins de fer, il y avait la première, deuxième et troisième classe. Mais enfin, c'était des wagons corrects. Et on a été déportés comme ça.
Et là, dans ce train pour Drancy, est-ce qu'il y avait des connaissances de Nice ? Il y avait certains de vos amis ou de vos relations qui aussi avaient été arrêtés ?
Non, mais on a fait connaissance dans le train. Moi, en fait, je ne connaissais pas tellement les familles juives de Nice. Hein. Moi, je suis parisien, j'étais là. Et bon, je n'ai jamais fréquenté la communauté juive de ma vie, ni avant, ni pendant, ni après, et ni même maintenant. Moi, je ne connaissais aucun. Quand on est dans le train, on m'a dit « Ah oui, je suis celui-là, tel commerçant sur l'avenue de la Victoire ou tel commerçant de la rue de France. » Bon, je voyais le magasin, mais je ne connaissais pas les gens. Moi, j'ai fréquenté que des résistants, j'ai jamais fréquenté des juifs. Et on a fait connaissance en train. C'est là que j'ai fait connaissance avec Usiner. Je me suis rappelé de lui parce qu'il était là et qu'il m'était sympathique. Qu'il était, je sais pas, il était sympathique. Et il avait son beau-frère avec lui, Caraco, je me souviens, qui lui a été passé à la chambre à gaz en arrivant à Auschwitz.
Monsieur Cuisinaire, je précise, a été interviewé par la Fondation, par Marilyn Rillet.
Et il a parlé de Caraco, de son beau-frère? Vous ne savez pas? Non?
Je ne sais pas.
Ah, vous ne savez pas.
Est-ce que vous pouvez nous décrire l'arrivée à Drancy?
Là?
L'arrivée à Drancy. Qu'est-ce que vous avez vu?
Vous savez, c'est difficile à expliquer et à dire, bien sûr. Comme je vous ai dit, moi j'étais issu d'une famille, une petite bourgeoisie. Moi je ne connaissais pas la brutalité, même pas les mots orduriers. On était une famille simple, mais je ne sais pas comment dire. Enfin, je suis arrivé à Drancy, d'abord on a eu des chalets pour dormir. Il y avait la distribution de la soupe à la louche. Je ne connaissais pas tellement. Puis, j'avais quand même que 22 ans, 23 ans. Je n'avais pas connu des moments aussi durs, aussi éprouvants, pour un jeune homme de bonne famille, si vous voulez. Bon. Et ça m'a été particulièrement difficile, forcément. Forcément. Mais heureusement que dès le lendemain ou le surlendemain, je crois, j'ai rencontré pas mal de jeunes qui travaillaient dans les bureaux à Drancy, qui étaient des amis d'enfance à moi, des amis, des éclaireurs israélites. J'ai été vite mis au courant de ce qui se passait, de ce qu'il fallait faire et pas faire. Et quelqu'un m'a trouvé un poste de travail aux douches.
Vous à Drancy.
De Drancy, oui, toujours à Drancy.
Parce que vous êtes resté combien
Mais seulement,
de temps à
j'ai oublié de vous dire, de préciser, ça peut-être vous l'avez oublié. Avant d'arriver à Drancy, j'ai essayé de m'évader à la gare de Lyon.
Ah. Racontez-nous.
En descendant du train à Paris, on est arrivé à la gare de Lyon, que je connaissais bien parce que mon père avait le magasin pas très loin, et puis moi j'ai toujours traîné un peu les rues, pas les bistrots, mais les rues. Je connaissais bien tout le quartier. Et quand on est arrivé à la gare de Lyon, j'ai essayé de m'évader.
Comment vous avez fait?
Je me suis évadé. Bah, c'est-à-dire que il y avait les gardes SS qui étaient sur le quai de la gare, les gens qui étaient tous, qui descendaient tous avec leurs paquets, leurs valises. On m'avait dit, moi j'avais rien, quand j'ai été arrêté, j'avais rien du tout sur moi, j'avais aucun bagage. Et on m'avait dit, comme j'étais jeune, on m'avait dit d'aider les personnes âgées à porter les valises, à descendre du train. Et c'est quand j'ai vu que le quai de la gare, il n'y avait pas beaucoup d'Allemands, qu'il y avait beaucoup des gens civils, je me suis dit, c'est le moment d'essayer de s'évader. Et j'ai fichu le camp. À un moment donné, j'ai cavalé à travers les voies de chemin de fer. Je me suis échappé et ça a duré 10 minutes ou un quart d'heure, 10 minutes. À 10 minutes, j'ai eu le sentiment d'être libre. J'étais content, hein. Et malheureusement, les SS, j'ai entendu les sifflements, ils ont bouclé la gare. Et parce qu'ils m'ont vu courir, hein, forcément, à travers les voies, ils n'ont pas tiré, hein. Et c'est vrai qu'on était en France, à l'époque, ils ne tiraient pas quand même, hein. Ils faisaient ça en Pologne ou dans les pays de l'Europe centrale, mais en France, quand même, ils ne le faisaient pas, surtout à ce moment-là. J'ai vu un poste d'aiguillage, je me suis caché dedans, je suis monté, je me suis caché. Les gars ont été très sympas dans ce sens qu'ils m'ont dit, bon, j'ai expliqué mon truc, je suis poursuivi, mets-toi dans un coin, bon. Mais malheureusement, les Allemands sont arrivés 3 ou 4 minutes après, ou 5 minutes après. Ils sont montés, puis ils m'ont repris. Bêtement, parce que j'étais caché derrière la porte, et ils sont montés. Je ne sais pas si vous connaissez les postes d'aiguillage. À l'époque, il y avait des escaliers raides qui montaient, et c'était un petit truc qui était une baraque qui était.
Guérite.
Oui. Alors, moi, on m'avait dit de me cacher derrière la porte. Les Allemands sont arrivés, enfin, l'Allemand le premier, un adjudant certainement, est rentré, il a ouvert la porte, il a demandé, vous avez quelqu'un qui se cache, on cherche quelqu'un. Personne n'a répondu. Ils ont fait des signes de tête, enfin, moi, je n'ai pas vu, j'étais derrière la porte. Enfin, personne n'a répondu. Le gars, il referme, l'Allemand referme la porte et il descend. Et hop, une seconde après, j'entends, il remonte, il ouvre la porte, il attire, j'étais derrière, il m'a pris et d'un seul coup, il a eu une idée que je pouvais être caché derrière la porte. Alors, il m'a envoyé du raidillon des escaliers jusqu'en bas, et bon, j'ai eu des côtes cassées, tout ça, puis de là, je suis allé à Drancy. C'est après que j'ai eu l'arrivée
Donc,
à Drancy.
nous retournons à Drancy. Je crois que c'est vers cette période-là qu'avait été creusé un tunnel à Drancy. Est-ce que vous en avez entendu parler?
Ah bah très vite, parce que comme j'avais beaucoup de copains qui étaient aux éclaireurs israélites, qui étaient dans le coup aussi, et ils m'ont de suite indiqué, et malheureusement, ça pétait tout de suite parce que un des membres du tunnel, des constructeurs du tunnel, qui était lui un juif marié à une catholique, il a eu un régime de faveur. On est venu le chercher pour l'envoyer travailler à la gare d'Austerlitz, qui était le destin de tous les juifs mariés à des catholiques. Et en se faisant arrêter et partir là-bas, il a parlé de quelle connerie. J'étais resté 2 jours de plus à Drancy, j'étais libre. Et il y avait un SS qui comprenait le français, qui l'a entendu. Il l'a tabassé, il l'a fait parler et il a raconté l'histoire du tunnel, qui était aberrant d'ailleurs, un tunnel de 50 mètres de long ou 45 mètres de long. Il a dû le faire beaucoup plus court. Il voulait faire un tunnel qui était creusé déjà depuis plusieurs mois et il voulait faire évader presque tout le monde, tous les gens valides du camp. Bon.
Vous avez
Alors, les.
participé à ce tunnel?
Ah, personnellement, non.
Non.
J'étais au courant, je savais, j'ai vu le responsable de la construction et tout.
C'était
Quand
qui?
on me l'a dit, je me souviens plus de son nom, je me souviens plus. Il a été déporté, il a été gazé tout de suite. Ben, je peux pas me rappeler. Je crois que son prénom était André, mais c'est tout ce que je sais, hein. Et les Allemands, le soir, ils étaient dans le tunnel pendant que les gars qui travaillaient, et ils ont tous arrêté, Ils nous ont fait reboucher. Là, j'ai participé au rebouchage du tunnel. Hein, et on a rebouché le tunnel.
50 mètres de tunnel?
Oui, 40. Oui, bon, là, c'est plus facile à démolir qu'à le faire. Hein, parce que, bon, les éboulis, c'est pas terrible hein, à faire. Et nous avons eu droit à une déportation de représailles qui a eu lieu le 20 novembre 1943, où il y avait tous les gars de l'équipe du tunnel.
Qui ont fait partie de votre convoi?
Oui.
Vous vous souvenez du numéro du convoi?
62.
C'était
convoi numéro 62.
Quelle date?
20 novembre 1943.
Et là, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du voyage? Est-ce que vous entendiez parler de ce qui se passait après Drancy?
Oui, un petit peu. Parce que, comme j'étais dans le wagon où il y avait tous les gars du tunnel, mais en plus, il y avait d'autres personnes, on était 100 par wagon. Hein. Nous étions une vingtaine, les gars qui avaient participé au tunnel. 20 ou 22, 23, je ne sais plus. Et au bout de quelques heures de voyage, les gars, il y a beaucoup de gars. Moi, ce n'était pas mon cas parce que je n'ai pas eu la possibilité de passer dans les ateliers. Mais tous les gens qui participaient au tunnel et qui ont pu rentrer dans les ateliers ont pris des outils qu'ils ont cachés. Et quand on était dans le train, ils ont commencé à creuser le fond du wagon pour s'évader.
Est-ce qu'ils ont réussi?
Ben non, parce que... Au bout de... Bon, ils ont commencé à travailler, taper. Les gens qui n'étaient pas dans le coup, c'est-à-dire les familles, les hommes, les femmes et leurs enfants qui étaient avec, ils ont dit, mais qu'est-ce que vous faites? Alors, ils ont dit, on va essayer de s'évader. Alors, ils ont commencé à crier parce qu'au départ, les Allemands nous ont dit, on était 98 dans le compartiment, dans le wagon. Vous êtes 98, s'il en manque un à l'arrivée, tout le monde est fusillé. Alors évidemment, tous ces gens ont eu peur. Ils ont dit, on ne peut pas se faire fusiller. On ne savait pas ce qui nous attendait, hein, c'est sûr. Hein, parce que presque tous ces gens sont directement rentrés au four crématoire. Mais ils se sont mis à crier, non, on ne vous laisse pas faire. Vous n'allez pas partir, on va être fusillé à l'arrivée. Alors ils ont tellement crié que les Allemands... Nous étions le premier wagon du transport, juste entre la locomotive et notre wagon, il y avait le wagon des soldats SS qui nous surveillaient. Alors ils ont tellement crié, tellement fait de bruit, qu'ils ont arrêté le train, et puis ils nous ont pris. Mais quand même, il y a quelques-uns qui se sont échappés. Le parquet avait été fracassé. Et je ne sais pas, je ne veux pas dire de bêtises, mais il y en a peut-être 6 ou 8 ou peut-être 10 maximum qui se sont échappés et que les Allemands n'ont pas retrouvé. Parce qu'après ma déportation, j'ai retrouvé un de ces rescapés.
Vous savez son nom?
Non. Ah non, vous savez les noms. Hein. Même pas les numéros, vous savez même pas. On se connaissait de vue, on ne connaissait pas les noms. Quoique, quand je l'ai revu, bien après la guerre, il m'avait dit son nom, mais je ne me souviens pas. Honnêtement, je ne me souviens pas.
Combien de temps a duré le voyage?
3 jours. Nous sommes partis le 20 novembre au matin. Nous sommes arrivés le 23 novembre à 5 heures du matin.
Y a-t-il des personnes qui ont péri pendant le voyage?
Ah oui. Oui. Pas beaucoup, mais il y en a eu.
De quoi étiez-vous nourri?
On nous avait donné, au moment du départ du train, à chacun un grand pain. Un grand pain, ça s'appelle des pains fantaisie, un grand pain de, je sais pas, 1,5 kg, un truc comme ça. Et c'est tout. On avait ça pour le voyage.
Et pour boire?
Ben, on ne buvait pas. Il n'y avait rien d'autre. Il y avait le pain qu'on nous avait donné. Et bon, ben, moi, le pain, forcément, à l'époque, j'avais faim, j'étais jeune. Et le pain, je l'ai fini le premier soir. Hein. Le premier soir. Les 2 autres jours, après, on n'avait rien à manger ni rien à boire. Mais par contre, on avait la tinette au milieu du wagon, où tout le monde faisait ses besoins.
Et lorsque vous arrivez à Auschwitz. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez
Parce que j'ai
ressenti?
vu la neige en premier. Je venais de la Côte d'Azur avec du soleil. J'avais des petites chaussures, un petit pantalon léger, un petit blouson en cuir. Au mois d'octobre, sur la côte, il fait pas mauvais. J'arrive là-bas, il y avait ça de neige, on est descendu des wagons. Ça, c'était la première. Puis alors après, bon.
À quelle heure vous êtes arrivé? Enfin, dans la journée,
Non,
dans la
non,
nuit?
non, non, c'était le matin, un petit jour au lever du. Non, d'abord, quand on est arrivé, il faisait nuit. Hein. Il n'y avait que les lumières des miradors, des barbelés. Hein. C'est après, le temps de descendre, de rassembler tout le monde. Bon, ça a mis une demi-heure ou trois quarts d'heure de temps. Et après, bon, le jour s'est levé. C'était le 23 novembre. Hein. Le jour se lève pas tellement tôt. Hein. Et puis, dans ces pays, il n'y a pas tout de suite le soleil. Hein. Au mois de novembre, en Pologne.
Et racontez l'arrivée, votre première journée à Auschwitz.
La première journée. Oui. Bon, je passe sur tous les. Bon, en
non,
arrivant dans le camp.
Passez pas sur les détails. On vous a tatoué, on vous a pris.
Ah ben oui, bon, ben oui, mais alors c'est. Mais même avant d'être tatoué, tout ce qu'on a subi, marcher dans la neige, se mettre en rang, les gens étaient à moitié, tous les gens un peu âgés étaient à moitié groggy, les enfants ça gueulait, ils avaient faim, ils n'avaient pas dormi ou si peu. Enfin, c'était très 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 pénible. Mais ensuite, bon, moi je vous parle en arrivant à ce moment-là, à l'entrée du camp. À l'entrée. Non, pas à l'entrée du camp, à la descente du train. À la descente du train, il y avait la sélection. C'est là que j'ai connu mon cher ami Mengele.
Racontez un peu.
Bien.
Vous ne saviez pas qui était Mengele à l'époque.
Ah non, non, je suis après son nom. Bon, pas longtemps après. Hein. Le jour même, en rentrant à Auschwitz dans le camp, je savais qui c'était. Je connaissais son nom. Eh bien, quand on est descendu du train, il y avait des haut-parleurs qui ont gueulé, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, les enfants de moins de 12 ans avec leur mère, les malades d'un côté, les fatigués d'un... Enfin, on a de suite fait le tri par haut-parleur. Alors là encore, ça
en
durait...
Allemand.
Ça, ah oui, bien sûr, en allemand. Hein, ça, celui qui ne comprenait pas l'allemand, le pauvre, il était...
Et vous?
Ah ben, je comprenais l'allemand parce que, bon, j'avais des oreilles yiddish, d'une part, et puis j'avais fait de l'allemand à l'école pour mon baccalauréat. J'avais fait l'allemand et l'anglais. Alors, je comprenais pas tout, mais enfin, je comprenais. Alors, c'est la... Ah bon. C'est là qu'on nous a mis à droite, à gauche. Après, ils nous ont dit, tous les gens malades et les femmes, ils les ont... Les camions sont venus les chercher, les enfants de moins de 12 ans avec leur mère. Et ensuite, parmi ceux qui sont restés, ils nous ont dit, il y a 3 km à faire à pied pour entrer au camp. Ceux qui sont fatigués et qui veulent prendre le camion, ils prennent le camion. Les autres, ils rentrent à pied. Les autres rentrent à pied.